cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 9 mars 1994.
Nous allons continuer cette recherche sur la relation. Alors, d'abord, cette toute petite topique historique. Mais c'est quand même important de voir ce déclic par rapport à Platon. Un des grands problèmes, sûrement, c'est de voir comment Aristote a saisi l'importance du relatif, le prosti. Hein? N'oubliez pas ça, c'est très difficile à traduire. Le vers, quelque chose. Dans les catégories, il faut tous avoir lu les catégories d'Aristote. Première année. On la relit après, en seconde année, on la relit en troisième année. Parce que les catégories représentent justement une réflexion propédeutique. Je crois qu'on peut dire propédeutique. Une sorte facile, alors on lit ça à toute vitesse, sans voir tous les problèmes qui se posent. Et ça a joué un très grand rôle au point de vue philosophique. Alors c'est à la fois de la logique, c'est descriptif, pas commode à bien situer comme position, comme toujours une position propédeutique. Ce sont des positions intermédiaires. C'est un début de réflexion. Philosophique. Et alors, lorsqu'il s'agit du prosti, du relatif, il y a ceci tout à fait particulier. Et c'est intéressant de voir qu'Aristote s'est posé le problème avec beaucoup de netteté. De voir que, de fait, on peut décrire d'abord ce qui est double, ce qui est moitié. Vous avez l'exemple très simple. Vous découpez une tarte, vous en prenez un morceau, c'est relatif au tout. Mais la première idée du relatif, c'est relatif au tout. Et ça, c'est intéressant parce que ça reste toujours un peu lié à l'aspect relatif. On est relatif à un autre. Le relatif est toujours second, n'est jamais. l'exemple que je vous ai déjà dit de Sartre faisant une conférence à Paris. Au début, 200 personnes. Et comme ça dure indéfiniment et que Sartre, à ce moment-là, je crois qu'il ne voyait presque plus. Sa vue avait beaucoup baissé. La conférence dure, dure, dure. Les gens s'en vont petit à petit. Le dernier se demande s'il doit partir, s'il doit avertir qu'il est le dernier. C'est un problème de conscience. Ou s'il doit partir sans faire de bruit. Là, voyez, c'est tout le problème du relatif. Quand vous parlez à quelqu'un, vous êtes relatif à lui. Cette personne s'en va. Alors, la relation n'existe plus. Il y a la relation de l'auditeur et de celui qui parle. Mais, en tant que vous êtes auditeur, vous faites le professeur. Si vous n'étiez pas là, je parlerai devant. Je verrai qu'il n'y a personne, donc je me tairai. Mais si je ne voyais pas ma parole, c'est le mur qui le recevrait. Mais le mur ne reçoit pas. Il reçoit une balle, mais pas la parole. Et quand il reçoit une balle, la balle rebondit. Mais le mur ne reçoit pas. Donc, au fond, en écoutant, vous faites, en étant auditeur, vous faites celui qui parle. Vous faites le discours. Vous donnez un être à l'enseignement. Vous faites le maître. Vous réalisez le maître. En étant disciple, on permet au maître d'être maître. Je meurs sans disciple, me disait quelqu'un une fois, quelqu'un d'illustre. Je meurs sans disciple. Je meurs sans enfant. Mais, donc, du fait qu'on est l'enfant de quelqu'un, on fait que l'autre est père ou mère. C'est un fait. Et pourtant, vous disparaissez. L'autre ne change pas. Il n'est plus père et mère. Il n'est plus maître. Son enseignement n'a plus de sens. Ça, c'est le propre à la relation. Vous êtes semblable à quelqu'un. Vous disparaissez. Il n'y a plus de semblable. Or, vous disparaissez. Vous ne changez rien à l'autre. C'est pas parce que vous disparaissez que l'autre est changé. Et vous essayez de disparaître sans faire de bruit pour qu'ils s'en aperçoivent pas. Rien n'est changé à l'autre. Et pourtant, la relation disparaît. Alors est-ce que la relation a un être? Ou est-ce que c'est une simple dénomination que l'intelligence fait de l'extérieur? Et le problème est très fort. De sorte que quand Aristote dit l'être du relatif, il veut montrer qu'il y a vraiment un être, objectivement. Que c'est pas seulement moi, mon intelligence, qui fait les relations. C'est sûr que l'intelligence fait des relations. Mais il y a un fondement. Il y a quelque chose. Il n'y a pas rien. Je ne vais pas dire ça. C'est tout le gros problème qu'on va débattre après. Mais Aristote a senti tout de suite que par rapport aux diverses catégories, il y a quelque chose de spécial et d'unique. C'est qu'on se demande si, de fait, le relatif, le prosti, le relatif à un certain être, et donc à une certaine signification par lui-même. Donc je termine ce petit passage pour bien comprendre la signification de cette nouvelle définition du relatif. Il faut la saisir en fonction de l'aporie dont elle constitue la réponse. Vous voyez, les apories d'Aristote, c'est les questions. Il y a un livre d'aporie. C'est très astucieux. Hein. Il n'y a pas beaucoup de philosophes qui font un livre d'aporie. Toutes les questions qui se posent. Et énigme, Marie, ça doit répondre à toutes ces questions. Progressivement. La première définition, en effet, est incapable de déterminer dans quelle mesure les parties des substances secondes sont des relatifs. Munis de cette seule définition, on peut seulement se demander si les parties des substances secondes sont attribuées à leur tout au titre de termes relatifs. Vous voyez, alors, posez la question, le tout et le relatif. Parce que c'est là l'origine première du relatif. C'est par rapport au tout. Dire que parce que la tête est la tête de l'homme, elle est toute relative au tout dont elle fait partie. C'est là une conclusion qu'Aristote ne peut accepter, étant donné la distinction qu'il fait en métaphysique entre accident relatif et substance. Quand vous êtes en face d'une partie essentielle, la tête, si vous coupez la tête de quelqu'un, c'est pas un petit accident. Le tout disparaît. Il est mutilé d'une façon telle que le tout disparaît. Alors, cette partie, elle fait partie essentielle de la substance. Et pourtant, elle est partie. Alors peut-être partie, et partie essentielle. Comment ça se fait? Ce qui est relatif est totalement relatif à l'autre. Donc il n'est pas, il ne peut pas être quelque chose d'essentiel, puisqu'il est totalement relatif. Donc il est totalement sourd. Donc vous voyez comment Aristote aborde le problème dans les catégories, d'abord uniquement du côté du langage. La tête de l'homme. La tête de l'homme. L'église, la vie contemplative est la partie essentielle, la partie principale. Donc, dictionnaire philosophique dépend de ce livre d'Altan. Mais les autres ont copié, donc sont moins intelligents. Tandis que celui-là est très intelligent. Quelle est la définition de la cause veille ? Faut de temps en temps vous fourrer dans le livre d'Altan. Des définitions. Au livre Delta, la philosophie Aristote annonce que l'être par soi se dit en autant de sens qu'il y a de catégories. Le katoto, l'être par soi, ce qui est être, se dit en autant de sens qu'il y a de catégories, puisque le langage exprime la manière dont nous saisissons la réalité. Et il énumère la qualité, poion, la quantité, la relation, prosti, plus exactement le relatif. Mais son analyse métaphysique se limite à la détermination première, l'ousia. C'est évident qu'au point de vue métaphysique, on s'intéresse avant tout aux choses premières, puisque c'est la philosophie première. Qui dit philosophie première s'intéresse au premier. Qu'est-ce qui est premier ? Dans l'ordre de la forme, c'est la substance. Toutes les autres catégories sont secondes. Alors, est-ce que la métaphysique s'en intéresse ? Est-ce que la philosophie première s'en intéresse ? Elle s'intéresse à toutes les déterminations secondaires, dans la mesure où ces déterminations secondaires nous aident à comprendre les déterminations premières. Ce qui intéresse la philosophie première, avant tout, c'est l'ousia. Mais comme l'ousia, je l'ai saisi à travers une induction. Je n'ai pas l'expérience directe de la substance. J'ai saisi l'ousia à partir d'une induction, c'est-à-dire en jetant du lest. L'ousia, c'est l'induction, c'est jeter du lest. Pour pouvoir monter, il faut jeter du lest. Alors j'ai jeté beaucoup de lest. Successivement, je sais jeter. Alors c'est intéressant, une fois que je découvre la substance, de revenir. Oui, c'est l'aller-retour. De revenir, mais c'est très bien d'avoir abandonné tout ça, mais est-ce que toutes ces catégories sont du non-être ? Ah non. Toutes ces catégories expriment quelque chose de l'être. Si toutes ces catégories expriment quelque chose de l'être, elles sont d'une certaine manière les effets de l'être, les effets de l'ousia. Elles sont comme la fumée de l'ousia. Elles sont comme la manifestation de l'ousia. Et donc, comme j'ai beaucoup de peine d'atteindre l'ousia, ça m'intéresse de revenir à toutes ces manifestations de l'ousia, à tous ces effets, parce que je comprendrai beaucoup mieux ce que c'est que l'ousia. Si je reste uniquement à la fine pointe de ma saisie de l'ousia, je me poserai toujours la question, est-ce que j'ai bien saisi ? Est-ce que c'est bien ça ? Je ne suis pas sûr, après tout. Alors, je reviens. Alors, c'est pour ça qu'il y a deux démarches pour les catégories. Il y a la démarche des catégories attribution qui conduisent poteaux indicateurs. Ce sont des poteaux indicateurs. Ils orientent vers. Et puis une fois que j'ai découvert la substance, je reviens. Alors, Aristote n'a pas dans les métaphysiques m'intéresse de voir ce que j'ai abandonné. Mais il ne faut pas m'intéresser d'une manière telle à ce que j'ai abandonné que j'oublie la substance. Quand Heidegger dit l'oubli de l'être, il devrait dire l'oubli de la substance. Mais comme lui-même ne l'a pas trouvé, il ne pouvait pas dire l'oubli de la substance. Vous pouvez dire l'oubli de quelque chose quand vous l'avez trouvé. Vous voyez que les autres ont abandonné. Mais tant que vous n'avez pas découvert la substance, vous dites l'oubli de l'être. Pour lui, je suis sûr que c'est la même chose. Mais en réalité, il aurait dû dire l'oubli de la substance. C'est pas l'oubli de l'être. Tous parlent de l'être. Mais ils en parlent mal. Parce qu'à la place de parler de l'être premier, ils parlent de l'être second. Or, l'être réclame d'être premier. En tant qu'être. Et donc, si on oublie la substance, on oublie l'être. Cependant, s'il n'analyse pas systématiquement le relatif, comme il analyse Lucia, on peut relever chez lui suffisamment d'affirmations pour pouvoir préciser sa pensée concernant ce qu'est le relatif. Déjà dans les topiques, Aristote disait, Lousia, de tout relatif et d'être orienté vers un autre. Mais comme c'est curieux, hein, Lousia, donc la substance de tout relatif et d'être orienté vers un autre, puisque pour chacun des relatifs, tout ce qu'il y a d'être est exactement ce qui se rapporte de quelque façon à quelque chose. Il y a dans les topiques, vous pourrez voir dans la page 19, sur l'être. Si Aristote parle ici de l'ousia du relatif, c'est simplement pour exprimer sa quantité, ce qu'il est. En réalité, comme le précise la métaphysique, l'ousia ne peut être élément du relatif, ni le relatif élément de Lucia, car il n'y a pas de principe commun à Lucia et au relatif. Et de toutes les déterminations de l'être, le prosti est celle qui est le moins une nature ou une substance. C'est encore Aristote qui dit ça. Ça, c'est très joli. Vous voyez, le prosti est la détermination de la réalité. Qui est le moins une nature, qui est le moins substance, car relativement à l'être, elle est même postérieure à la qualité, à la quantité. Elle n'est même pas une détermination de ces déterminations. Elle est seulement un mode de la quantité, de la qualité, un pathos. La substance, le relatif pour Aristote est seulement un pathos. Un mode. Oh, c'est difficile à traduire, un pathos. C'est quelque chose qui s'imprime. On pâtit. On reçoit l'empreinte. Eh bien, le relatif au point de l'être, c'est comme l'empreinte de l'être. C'est pas une nature, c'est pas une substance. C'est ce qu'il y a de plus éloigné de la substance de la nature. C'est quelque chose qui est uniquement vert. C'est très difficile à penser. Hein. Alors il dit pathos. Et c'est pour ça qu'il arrivera à dire que le relatif, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant à voir, autrement dit, l'être du relatif implique toujours une autre nature qui lui sert de fondement. Le relatif ne peut exister que grâce à un autre. énumère trois grands types de relatifs. Les relatifs selon le nombre, le rapport à l'un. Les relatifs selon la puissance et l'acte, qui ont trait aux puissances actives. Les relatifs du troisième type, ceux qui se disent du mesurable à la mesure. Tous ces relatifs sont relatifs par eux-mêmes. Donc ils expriment vraiment quelque chose d'original dans l'ordre de l'être. Si vous ne saisissez pas le prosti, il y a quelque chose de l'être que vous ne saisissez pas. Et si vous ne saisissez pas le prosti, vous ne pouvez rien saisir à la philosophie contemporaine. chrome qui est supprimé. Et on identifie substance et un. Et si vous identifiez substance et ce qui est, vous résorbez la finalité de la substance. Et donc il n'y a plus de finalité. Et l'autre danger, c'est de faire du prosti. Donc du relatif. De faire du relatif l'absolu. Identifier la recherche métaphysique de l'être à la recherche scientifique de la relation et d'affirmer que tout est relatif, c'est rendre absolu la relation. Quand vous dites que tout est relatif, votre absolu, c'est la relation. Et donc, faire du relatif l'absolu, c'est aussi la suppression de la finalité. Donc, il y a deux grands obstacles à la découverte de la finalité. C'est extrêmement curieux. C'est la substance et le relatif. Les deux, les identifiant à l'être, ramener toute connaissance à la connaissance scientifique. C'est ramener toute connaissance à la logique, en définitive. C'est ça qui est très curieux. On ramène toute connaissance à la connaissance logique. Donc, au relatif. Ou ramener tout l'être à la substance. Alors, il n'y a plus de place pour la finalité. Découvrir que l'être implique une finalité, il faut qu'il y ait cette brèche dans l'être. Et cette brèche dans l'être, c'est que l'être est substance et qu'il est relatif. Si l'être est substance et relatif, la substance ne supprime pas le relatif. Parce que la substance n'est pas tout l'être. Dans l'être selon la forme. Si donc il y a les deux dans l'être, substance et relatif, il faut le dépassement de la dyade, il faut le dépassement de cette dualité. Et ce dépassement se fait par l'acte, la fin. Donc vous voyez que, au point de vue topique historique, c'est très important et très intéressant de voir que Aristote est le premier à avoir saisi ça. Je regarde tout de suite ce grand philosophe, théologien de la substance et du relatif, Thomas d'Aquin. Je ne lis pas ce que je vous ai dit dans le livre sur Thomas d'Aquin, si vous avez le temps, vous le lirez. Je vais aller plus vite. Mais simplement, à la suite, et c'est peut-être une des raisons pourquoi Thomas d'Aquin revient à Aristote, deux grands piliers de toute la zone théologique de Thomas d'Aquin. Les deux sommets. Dieu absolument simple. La paternité. Dans la simplicité est révélée la Trinité. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la simplicité implique cette fécondité des trois personnes. Comment exprimer dans la simplicité les trois? C'est par la relation subsistante. Il n'y a pas de contradiction entre la simplicité et la fécondité. Il n'y a pas de contradiction entre la simplicité absolue de Dieu et les trois personnes. Le Père qui appelle le Fils, le Père et le Fils qui appellent l'Esprit Saint. Alors, c'est les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et je crois que ce qui domine dans toute cette recherche de la très sainte Trinité, c'est de voir comment le Père et le Fils sont un dans l'inspiration de l'Esprit Saint. Et c'est seule la relation subsistante qui permet aux théologiens d'avoir un support intelligible.